Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC.
Attention à ce ballon qui traîne. Oh, c'est but! Le cinquième but est le plus beau. JJ Okocha s'amuse avec la défense belge et décoche une frappe dont il a le secret.
Oh là là! Et le deuxième but! Oh, c'est incroyable! C'est Yanko!
Hop là, boum! Et ça va dans la lucarne. Le PSG avait une défense. Devant 30 000 personnes ravies, les hommes de Luis Fernandez ont trouvé une attaque.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Gilbert Brigois.
Il est 23h03, voilà, ça c'était l'époque avant Prime Video, avant RMC Sport, de Daniel, qui est là, Daniel Riello, plus Kevin Diaz, qui est là également. Tiens, justement, Daniel revient là, donc il a suivi depuis son Transat, ou son Backlash, je sais plus ce qu'il préfère, l'été de l'Olympique de Marseille. C'est l'occasion d'y revenir et d'en débattre ensemble au 32-16 Jingle Riolo.
Une étendue de 125 transats alignés.
Je ne suis pas vraiment transat, je suis plus les lits, tu sais.
35 lits, les pieds dans le sable.
Complètement allongé, pas avec les pieds dans le vide.
Comptez tout de même 60€ pour un lit comme celui-ci.
Eh hey les gars, arrêtez deux secondes, là vous êtes grotesques.
Oh hein. Le but! Le but de l'Olympique de Marseille! Oh le but de Nuno Tavares! Nuno!
C'est bien aussi de ne pas chercher à pouvoir dire du mal quand c'est que positif.
Il n'y a vraiment aucun problème avec Jim, on sait très bien qu'il répondra toujours présent sur le terrain.
Mais non! Arrête, franchement, je m'en vais, arrête de dire ça!
C'est le plus long de tous les jingles de la Terre.
60€ le lit.
Non, je ne vais pas sur les plages à 60. Je vais pas à Saint-Trope, hein, quand même.
Ouais, Saint-Trope, c'est plus que 60€, mon gars.
Mais 60€, c'est pour la semaine.
Alors là, on peut négocier, alors. En ce cas, c'est mieux.
Donc, tu voulais parler d'abord de Longoria. Et après, on va
c'est
partir
peut-être
sur Tudor.
Tu me diras que ça a été animé également au PSG, mais c'était plus attendu. L'intersaison de l'OM, c'était pas attendu du tout que ce soit aussi mouvementé. Et c'est là où je me suis interrogé un petit peu sur Longoria en me posant la question, mais à quoi il joue Longoria? J'ai du mal à cerner son ambition finalement, parce que il avait commencé à construire une histoire intéressante depuis qu'il était arrivé et qu'il avait continué la saison dernière avec Sampaoli, où il avait créé un lien d'affect entre le public marseillais, cet entraîneur, cette équipe qui a souffert, qui a offert une saison pleine d'émotions, qui s'est terminée dans la joie. On a l'image de lui en tribune, toujours exalté quand l'équipe marquait, et les gens autour de lui étaient très heureux. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Il y a eu des soucis, il y a eu des déceptions, mais au final, ça s'était bien terminé. Et quand une histoire prend comme ça, on s'attend à ce qu'elle continue. Et finalement, elle s'est achevée sans que personne, finalement, n'ait versé une larme. On sait maintenant, avec le recul, que Sampaoli a probablement pensé, durant la saison, à s'en aller, parce que il sentait que, de toute façon, le jeu de Mécano et de transfert de Mercato agité allait continuer, qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur l'équipe qu'il avait bâtie, construite, renforcée par de nouveaux éléments pour être, finalement, un acteur important, si bien de la Ligue 1 et pas ridicule en Ligue des Champions, parce que je pense pas qu'il imaginait aller très loin, mais peut-être, en tout cas, pourquoi pas, sortir de la poule, en tout cas, exister à nouveau. Et tout ça, c'est cassé la gueule d'un coup. Et on a le sentiment, en fait, que, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Kevin, en introduction, comme si ça ramenait l'OM et beaucoup d'autres clubs français à ce qu'ils doivent être contre leur gré, ou en tout cas, bon gré, mal gré, j'en sais rien. Mais juste des clubs de passage, quoi, où on essaye des joueurs, où on tente des paris. Moi, j'en peux plus d'entendre, c'est un pari.
Le fameux club tremplin.
Moi, j'en peux plus d'entendre, on a fait un pari. Tu vois, un directeur sportif, un président, il fait pas un pari. Un pari à pour faire revenir un joueur, une vieille star, pour un recruter, donner un gros salaire à un mec, sans savoir s'il va être bon et tout. Juste, c'est un pari. Non, c'est pas un pari. Normalement, ça veut dire que t'as des billes sur le joueur, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds. Tu peux réussir ou te planter, évidemment. Mais le mot de pari, comme si tu le fais comme ça en lançant la pièce, non. Bon, bref, il y a des paris, il y a des recrutements. On a tout chamboulé, finalement. On a tout chamboulé à l'OM. La défense de l'année dernière n'existe plus. Les joueurs offensifs de l'année dernière n'existe plus, puisque bah, Milik, qui était justement très discuté, semble être devenu, à moins que d'ici fin août, il soit vendu, hein, ce qui n'est pas impossible, mais semble être devenu titulaire indiscutable. On empile les joueurs. On empile les joueurs. Vraiment, on empile. Moi, les joueurs offensifs, là, quand j'ai vu qu'Alexis Sanchez arrivait, bon, alors là aussi, pareil, hein, le pari Alexis Sanchez, je lui souhaite de réussir. Hein, c'est un mec qui a un profil OM et tout, mais enfin bon, un mec dont le prime est dépassé depuis 5 ans, je trouve que c'est très bizarre. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à prendre? Franchement, je ne sais pas si Alexis Sanchez se fera. Je souhaite. J'espère qu'il fera aussi bien que Bakambu, tu vois.
Est-ce que tu me permets de dire que c'est un pari?
Ben, c'est pour ça que j'en ai marre de ces paris. Donc, on ne sait pas réellement comment ça va jouer devant. On ne comprend pas encore bien comment ça joue, parce que donc il y a eu un nouvel entraîneur. Et puis en plus, c'est pas qu'on a pris un nouvel entraîneur. C'est qu'on a pris un nouvel entraîneur qui a les méthodes opposées à Sampaoli. Donc t'as tout un groupe qui a été habitué à un mode de fonctionnement, et les modes de fonctionnement façon Sampaoli sont tellement particuliers que pour en sortir, c'est un peu compliqué, hein, dans le rapport humain, dans ce que tu fais sur le terrain, compliqué. Les vedettes de l'année dernière, Saliba est parti. Camara est parti, mais il y avait, je parle de ceux qui sont encore là, donc Guendouzi. On voit qu'il est perdu, Guendouzi. Il est plus, il va falloir qu'il.
Il a été meilleur contre Brest.
Voilà, je vais pas dire il est plus bon parce que ça vient à peine de commencer, mais on voit qu'il faut qu'il se réadapte. Donc un mec que t'as relancé complètement, qui a fait une saison où lui, par exemple, a créé un fort affect avec le public marseillais
et avec l'entraîneur précédent.
Voilà, donc là il faut qu'il reparte à zéro. Payet, au revoir, au revoir. L'idole, le capitaine. Alors on sait, hein, deuxième saison elle a été compliquée. On sait que dans certains systèmes de jeu, il ne peut pas jouer. Et j'ai même peur que ça tombe sur le système Tudor. Parce que je vois pas comment Payet va pouvoir, à terme, Tudor, il a beau dire, il s'est bien entraîné, il sait bien ceci, c'est bien cela. Et Payet, il y a un truc, hein. Il ne marche que quand, avec l'entraîneur, il y a une relation forte, d'affect, 100%. Sinon, il y a toujours un problème. Il peut y avoir une ou deux intercelles, mais il y a un problème. Et honnêtement, je pense qu'on va aller au-delà du problème. Je sais même pas s'il sera titulaire. Je pense qu'il risque d'être écarté. Et lui, il risque de prendre le bourdon bien comme il faut, coup de blues. Pas sûr qu'il revienne. Donc voilà, on a empilé des joueurs à plein de postes. On sait pas bien. Bon, en plus, je dis pas que ça va pas marcher. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Sur ce que je vois là, c'est pas terrible, hein, contre Brest, la deuxième mi-temps. Franchement, Brest est au-dessus, ce qui est déjà pas vraiment normal. On est allé se taper des histoires compliquées. Donc tu dors embrouillé avec les joueurs. Bon, il semblerait que ça se soit résolu maintenant parce qu'on s'est parlé. Bon, on s'est fait le recrutement vers tout. J'en ai parlé sur Twitter quand j'existais encore sur ce réseau. Et moi, j'aimais beaucoup ce joueur. Vraiment, je connaissais pas cette histoire. Moi, elle me dérange. Elle me dérange humainement. Bon, bah maintenant il est là, on va.
Et puis footballistiquement, pareil. Vers tout le prime, il est passé. Il est peut-être moins loin qu'Alex Sanchez, mais c'est pas un joueur
moi,
qui arrive en plein.
Je peux croire qu'il puisse encore tirer quelques cartouches. Mais globalement, tout ce chamboulement et pour conclure, eh bien Longoria qui voulait absolument récupérer son ami Ribalta. Je me demande si, parce que vous vous souvenez que Longoria, quand il est arrivé, on parlait beaucoup justement de ce côté-là, la directeur sportif, football manager. Il ne faudrait pas qu'il prenne l'OM comme un football manager géant, quoi, au final. Lui qui n'était pas destiné à être président, qu'on aime beaucoup, qui est assurément intelligent, qui dit plein de choses fantastiques sur le football. Mais que ce duo-là se mette à sans arrêt jouer et gérer un club de foot comme justement football manager.
Il y a un truc, Daniel.
C'est un peu compliqué pour la relation que tu crées avec.
Prenons les dossiers les uns après les autres. Démarrons sur Longoria. Parce qu'il y a un truc assez étonnant depuis quelques jours. C'est qu'il y avait une sorte de hype Longoria totale. Et là, les dossiers sortent. La liste des choses mal gérées est mise en avant. Ouais. Alors, Camara vendu, enfin pas vendu en l'occurrence.
Oui, en gros, l'idée c'est qu'il ne vend pas, quoi. Il claque l'oseille. On dit que McCourt il met l'oseille. Mmh. L'oseille, elle est claquée à l'OM.
La gestion Mandanda, avec le recul, on se dit bon, en fait, il a ramené un concurrent Mandanda qui en fait est moins fort. Et maintenant, t'as plus Mandanda et puis t'as deux gardiens moins bons que Mandanda.
Pour le coup, ça, c'est Sampaoli. Hein. Mais Sampaoli qui a demandé un autre gardien.
Qui a validé ça?
C'est un peu fini déjà, même si sur la fin de saison.
Puis t'as la liste des joueurs qui sont venus, qui se sont avérés nuls, les Amjam, Nagatomo et autres.
N'oublie pas quand même Kolasinac.
Kolasinac.
Cuisance, je comprends le pari, pour le coup. Mais Kolasinac, là, c'est plus un pari. Kolasinac, c'est faire all-in avec 2 et 7, mais tu montes tes cartes en plus. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, t'avais aucune chance que ça marche.
Et alors, sur Longoria, j'ai par exemple Thibaut sur Direct Jeu qui me dit coup de gueule sur le Longoria bashing qui est en train de s'instaurer dans les médias français depuis une dizaine de jours. Je ne comprends pas. Il est loué partout en Espagne, en Italie et même aux États-Unis dans les journaux sportifs. Et en France, tout à coup, tout le monde se met à le fracasser.
Non, moi, je ne fracasse pas. Moi, je viens de dire mes dernières phrases ont été, c'est toujours quelqu'un qui, quand il parle football, est intéressant. Je continue à lui accorder beaucoup de crédit. Il y a des phrases marquantes, genre le président, enfin, tu sais, la hiérarchie, là, il veut gérer ça à l'italienne. Le président, le directeur sportif, l'entraîneur et après les joueurs. Donc, les joueurs, un peu comme. Justement, il faudrait pas qu'il abuse trop dans l'idée que ce sont des pions, parce que c'est eux quand même qui créent le lien avec les supporters et cette histoire de l'année dernière. De certains joueurs, de cette équipe-là avec le public, elle était forte. Et là, il faut tout recréer. Et si tous les ans, tu recrées, ok, t'es un bon président. C'est que l'OM, cette année, bon, n'arrive pas forcément à briller en Ligue des Champions. Bon, ça changera pas des autres clubs français. Et refait podium, il revient en Ligue des Champions et puis il rechange, il refait le grand chambardement. J'enlève des joueurs. C'est ok, très bien, mais je trouve pas que ce soit des histoires magnifiques de faire ça. Il faut créer une histoire avec des joueurs qui restent un peu identifiés. Mais je sais que le football, surtout en France maintenant, il est comme ça.
Voilà. Et ce que tu viens de dire, en fait, j'ai pris des petites notes. Pendant la vie de Daniel, parce qu'il était un peu long,
Parce que tu n'as jamais des avis longs, toi.
Moi?
Bah non, mais les gonflés.
Bien sûr, ça arrive. Non mais la première note que j'ai prise, c'est réalité, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un problème avec d'être confronté avec cette réalité. Ce que vient de dire Daniel à la fin, il y a quelques secondes, il vient de dire, je sais que maintenant dans le football français, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ni la presse française, ni les supporters. Ni même certains acteurs, même qui sont à l'intérieur, ne veulent accepter ou au moins dire quelle est la réalité du football français. Et c'est ce que je disais en préambule dans l'after. Aujourd'hui, le championnat français est un championnat de deuxième division européenne. Et il serait peut-être temps. La seule chose où les Français sont presque au même niveau que les Italiens, que les Espagnols, voire même que les Allemands, c'est au niveau des salaires. Les meilleurs joueurs en France, je parle même pas du PSG, mais le PSG aussi a ce problème-là.
Ont des gros salaires.
Mais le souci, c'est que tu ne peux pas dans un championnat de deuxième division avec des joueurs qui ont des salaires de première division européenne. Parce que ce qui se passe, c'est que, et ça se passe même au Paris Saint-Germain, quand le joueur tu n'en veux plus, personne ne peut te l'acheter. Donc, je le dis, je le répète, je l'ai dit tout l'été, je veux bien qu'on critique Leonardo, je veux bien qu'on critique Longoria, ou qui vous voulez dans le foot, dans les directeurs sportifs ou les managers de clubs français. Mais à partir du moment où certains présidents, certains décisionnaires ont décidé d'accorder de tels salaires à des joueurs de Ligue 1, il ne faudra pas reprocher au suivant de ne pas pouvoir le vendre parce que c'est impossible. Le joueur ne va pas s'asseoir. Je répète, c'est un exemple, je pense, qui est marquant. Kevin Strootman, j'ai joué contre lui au Sparta Rotterdam. Il devait avoir, je pense qu'il avait 150 000 euros par an. D'accord? Ensuite, il est parti à Utrecht. Il devait peut-être avoir 3, 4, 500 000 euros par an maximum. Aujourd'hui, à Marseille, il a ça par mois. Comment vous voulez que le mec dise « Non, mais moi, je m'en veux, les gars. Moi, j'arrête le foot. Je vais faire ma passion. » Mais Kurzawa, c'est pareil. Les mecs, ils ont des salaires. Qui peut reprocher à ces mecs-là de vouloir prendre leur argent? Personne ne peut leur proposer la même chose.
Ah si, donc, si moi, ces gens-là, je leur reproche.
Tu peux leur reprocher si
moi,
tu veux, Daniel.
Mais eux, je ne leur reproche pas. De ne pas aller prendre un petit peu moins à côté. Et
là, c'est pas un petit peu moins, Daniel. On va te proposer la moitié.
Et d'exercer ta passion parce que.
On te parle de proposer la moitié.
Normalement, tu es censé être un joueur de foot. Tu as envie de jouer au foot. Okay. Tu n'as pas envie de faire une vie sur un banc.
Donc
moi, ce que fait Kurzawa, pardon, je ne comprends pas.
Okay. Et Kevin Strootman, 500 000 euros par mois. Tu veux qu'il aille jouer? On peut aller proposer peut-être 50 ou 100 000.
Encore bien différent. Strootman, il peut plus jouer au foot. Il s'est cassé les deux genoux. Il n'y arrive plus. C'est compliqué. Mais un jeune joueur qui était aux portes de l'équipe de France, qui y était même, qui était probablement le meilleur latéral gauche du football français, qui refuse de jouer, juste je prends l'oseille, et c'est pas sa passion de jouer au foot et d'aller montrer ce qu'il est capable de faire.
À un moment, ça devient un métier, Daniel. à ces niveaux de rémunération.
Donc, ton métier, c'est de rien faire.
Non, ton métier, c'est t'as signé un contrat.
Pour moi, c'est une mentalité.
Le club ne veut plus t'utiliser.
Kevin, il va pas aller jouer pour le SMIC hein, s'il va ailleurs. Hein.
Ouais,
il va pas être SMICard. Hein.
Ouais,
il va jouer pour la même chose, quasi. Hein.
Oui, mais c'est pareil pour Herrera, c'est pareil pour tous ces joueurs-là. Pourquoi Wijnaldum accepte d'aller à la Roma? Pourtant, c'est un magnifique club avec un très beau projet, mais parce que le PSG paye une bonne partie du salaire. Sinon, il n'aurait pas voulu baisser son salaire.
Je pense pas que ça ne soit que pour ça. T'as aussi des agents autour.
Oui, mais sûrement. Et puis, tu fais vivre une famille.
Un joueur de foot, 500 000, 400 000 ou 350 000, va jouer au foot.
Pour moi, ça reste difficile, je pense. En tout cas.
Je ne le comprendrai jamais.
Tu peux ne pas le comprendre.
Allez, revenons à l'OM, les gars.
Voilà. Juste pour finir sur l'OM.
Et ensuite, pause fraîcheur, la deuxième de la soirée.
Juste
et on accueillera
Ali. Ils ont fait une pause fraîcheur en Ligue 1, il faisait 21 degrés. On en est là maintenant.
Tu me permets une parenthèse? Je n'en peux plus d'entendre. Ah ouais, mais il fait chaud. Mais il fait chaud. Alors, on est en été.
Oui,
le principe de l'été, c'est qu'il fait chaud. Et quand t'es un athlète de 20 ans, joué par 25 degrés, franchement, il n'y a aucun problème.
Non, en ce moment, c'est la mode du il fait chaud.
Mais par contre, quand il fait moins 10, là, ça dérange personne.
À 31 degrés, là, ça y est,
c'est la mode. Je ne vais pas juger parce que moi.
C'est panique à bord. Là, maintenant, c'est la mode. C'est qu'il fasse
chaud. Je ne sais pas si toi, au tennis, ça te fait rien. Mais moi, franchement, jouer au foot à plus de 26, 27 degrés, honnêtement, c'était compliqué. Surtout avec la préparation que tu dois encaisser.
Va vivre en Finlande.
Non, mais Daniel, tu dois encaisser une préparation. T'es pas encore au top de ta forme.
À l'âge que j'ai, moi, je joue sans problème, sous la chaleur.
Peut-être, mais en tout cas, moi, je
ne
reprocherais pas aux footballeurs d'avoir du mal à jouer.
À 21
jouer.
Degrés, tu as besoin d'une pause fraîcheur.
À 21 degrés, je t'ai parlé de 27 degrés.
C'est ce qu'ils ont fait ce week-end. J'ai vu des pauses fraîcheurs à 22.
Et le confort des spectateurs, on en parle. Tu préfères aller voir un match quand tu fais 25 ou quand tu fais moins 10?
Non, mais bien sûr.
Moi, je préfère quand tu fais 25.
Je te dis pas ça, Daniel. Gilbert. Mais je te dis que c'est vrai que pour moi, je trouve que jouer 90 minutes sous le cagnard, les premiers matchs d'été, honnêtement, c'est compliqué.
On a vu la Coupe du Monde aux États-Unis.
Donc, pause fraîcheur.
Là, franchement, la mode, t'as la lamentation. La mode est uniquement axée sur la plainte, le petit confort, le gars qui ne veut plus rien foutre. Mais si, c'est une tendance. C'est une tendance. C'est comme quand tu vois les reportages.
Il y a une canicule quand même.
Non. C'est une tendance. C'est comme je regardais un sujet aujourd'hui sur les agriculteurs qui manquent de main d'œuvre pour ramasser les fruits, où ça va arriver quand tu auras les vendanges au mois de septembre. Avant, c'est les étudiants qui faisaient ça. T'en as plus un seul. Ils n'y vont plus, les étudiants. Ils ne bossent plus. Moi, tous les étés, pendant 10 ans, j'ai fait que bosser. Des boulots, mais...
Chez Cracotte, par exemple.
Moi aussi.
Par exemple.
Moi aussi.
Ouais, aujourd'hui, c'est terminé. Les mecs
là, le chaussure, toi.
Les mecs préfèrent plus bosser, ne plus rien foutre.
C'est notre éducation qu'on donne à nos enfants,
cette
Daniel.
Mentalité-là, elle se répercute à tous les niveaux de l'échelle sociale.
Mais Daniel, on fait
on
des enfants
gâtés. On se plaint en permanence, c'est le pays des lamentations.
Allez, dans quelques instants, on revient à l'OM. On va voir si Alim se lamente, lui qui est supporter de l'OM.
Ça, je pense que pour
16.
Un tel propos là, en temps normal, mon Twitter aurait pris feu. Mais c'est fini.
Allez, à tout de suite dans l'after.